Bienvenue sur OxyWeb, la radio des initiatives, notre nouvelle page d'histoire sur l'aviation.
Auditrices et auditeurs d'OxyWeb, c'est avec le plus grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans Estoria. Estoria, vous le savez, c'est l'émission que vous connaissez, une émission qui s'attache à vous parler de l'histoire de notre région, de notre pays et à l'occasion peut-être même du monde. Nous sommes en Occitanie, une région riche par son passé, mais aussi riche par son avenir. Dans les émissions précédentes, nous avons découvert le fameux pastel qui fit en son temps la richesse du Midi toulousain. Nous sommes allés ensuite à la rencontre de Pierre-Paul Riquet, qui nous a fait découvrir l'œuvre de sa vie, le canal du Midi. Aujourd'hui, nous allons prendre de l'altitude. Nous allons nous intéresser à l'histoire de l'aviation, une histoire qui colle à notre région. Prendre l'avion, cela nous paraît aujourd'hui chose normale. Pourtant, c'est un moyen de voyager, de se déplacer, qui n'est pas si ancien que cela en regard de l'histoire de l'humanité. On peut pratiquement dire que jusqu'à la fin du XIXe siècle, les voyages s'effectuaient surtout grâce au cheval. L'unité de vitesse pour l'homme était la vitesse d'un cheval lancé au galop. Depuis, vous serez bien d'accord avec moi, pour nous, les choses ont bien changé et on peut se demander ce que nous réserve l'avenir des transports aériens. Mais au cours de cette émission, nous n'allons pas nous précipiter, nous allons suivre l'évolution de ce moyen de transport depuis ses premiers balbutiements. À travers cette histoire, vous le devinez, nous parlerons de la fabuleuse histoire de l'aéropostale qui, partie de Toulouse, a ouvert le ciel à une aventure qui a transformé les rapports humains. Nous apprendrons à connaître ces intrépides aventuriers, ces hommes dont nous lisons les noms sur de nombreuses plaques de rue dans les villes d'Occitanie, mais également à travers toute la France, ces hommes qui furent d'incroyables pionniers d'un challenge dont ils ne connaissaient pas eux-mêmes le devenir. L'homme, dans ses rêves les plus lointains, en regardant le ciel, a dû certainement envier le vol des oiseaux. Souvenons-nous d'Icare, qui fut le premier homme-oiseau, mais hélas aussi le premier accidenté de l'air. Le génial Léonard de Vinci, quant à lui, a dessiné et proposé plusieurs idées de machines volantes. Il se fondait sur le principe des ailes battantes de l'oiseau. Mais était-ce suffisant? Plus tard, en 1665, un physicien anglais, Robert Hooke, considéré comme l'un des plus grands scientifiques du XVIIe siècle, que l'historien Alan Chapman a dénommé le Léonard Vinci d'Angleterre, a démontré que l'homme ne pourrait jamais voler en battant des ailes. Il aurait obligatoirement besoin de l'assistance d'un moyen extérieur. À partir de cette évidence, les chercheurs abandonnèrent l'idée de voler en battant des ailes. Il faut attendre 1783 pour que les frères Montgolfier permettent à l'homme de s'élever dans l'atmosphère. Mais petit inconvénient pour ce moyen de s'élever, on monte, mais on ne dirige pas sa direction. On est soumis au vent. Le véritable inventeur de l'aviation est un Britannique, George Cayley, aux environs des années 1800. Il découvre les lois de l'aérodynamique. Il montre qu'il faut vaincre deux forces, le poids de la machine et la résistance de l'air. Et pour cela, il préconise des engins aux ailes fixes. En fait, sa description correspond à ce que sera l'avion. Les travaux de Cowley sont repris par des ingénieurs anglais qui font voler un modèle réduit d'aéroplane avec un moteur à vapeur. Ce modèle est doté d'un tout petit moteur. Et à l'époque, on va se heurter à un problème qui va d'abord sembler insoluble. On ne sait pas construire des moteurs assez puissants, assez gros, pour faire décoller des appareils de taille réelle. Il faut donc chercher un autre moyen pour faire voler ces appareils. Et donc, on va se tourner vers un autre mode de vol, ne nécessitant pas une force pour quitter le sol. Et pour cela, on va revenir à une idée de Cayley qui avait fait voler en 1809 un planeur sans passagers. L'idée est reprise entre 1857 et 1868 par un Français, Jean-Marie Lebris. Lui, il va faire voler deux planeurs qu'il a lui-même construits. Pour prendre de la vitesse, il lance ses planeurs d'abord des collines de la baie de Douarnenez, puis sur la hauteur du polygone de la marine, près de Brest. Le mot aviation nous paraît tout naturel, mais comment a-t-il été déterminé et depuis quand l'utilise-t-on ? Le terme aviation a été inventé en 1863 par deux amis, le marin journaliste et homme de lettres Gabriel de la Landelle et l'ingénieur archéologue Gustave de Ponton d'Amécourt. Pour donner ce nom, ils sont partis tout simplement du mot avis qui signifie oiseau en latin. Quant au nom avion, il sera inventé plus tard par Clément Ader en 1903, à partir bien sûr des mêmes origines latines. En cette fin du XIXe siècle, n'ayant pas de solution suffisante pour animer des engins volants capables d'emporter un homme, on développe les planeurs. Le Français Louis Mouillard, un ingénieur et chercheur, a construit ses planeurs en s'inspirant de la forme de l'aile d'oiseau. Mais Louis Mouillard est un grand optimiste doublé d'un grand utopiste et il va à l'époque jusqu'à déclarer que la possibilité de voler va permettre la disparition des frontières et des armées et même à court terme la suppression des nationalités. Mais restons en France. Entre 1857 et 1877, Jean-Marie Félix du Temple, qui est un officier de marine, général de brigade, construit lui aussi des modèles réduits de planeurs auxquels lui a une idée, il ajoute un moteur à ressort. En 1857, il lance d'un plan incliné le premier planeur à moteur. Mais pendant ce temps, d'autres nations ne sont pas en reste. Et par exemple, on assiste à de nombreux essais de planeurs. Bon, je vais citer l'allemand Otto Lilienthal, le britannique Percy Pitcher et les américains John Joseph Montgomery et Maloney. Mais de nouveau, les Français s'y intéressent, en particulier Fernand Ferber, Maurice Colliex et les frères Charles et Gabriel Voisin. Bien sûr, nous aurons l'occasion de reparler des frères Voisin. Ils rachèteront plus tard l'usine Louis Blériot à Issy-les-Moulineaux. Et de ces usines sortiront des avions fameux qui s'illustreront pendant la Première Guerre mondiale. Le premier homme à avoir volé sur planeur en dirigeant réellement sa trajectoire est Otto Lilienthal. Et j'insiste, il a volé sur un planeur. En 5 ans, entre 1891 et 1896, il effectuera 2000 vols en planeur. Il avait un moyen de prendre de la vitesse. Il s'est lancé depuis une colline artificielle à proximité de Berlin. Bon, maintenant, je vais vous poser une colle. En faisant un mot croisé à la définition père de l'aviation en quatre lettres, qu'allez-vous répondre ? Bien sûr, vous allez immédiatement répondre Clément Ader. Nous arrivons au premier homme ayant déclaré avoir volé à l'aide d'un moteur. Et non plus sur, il n'est plus sur un planeur. Cet homme est en effet le Français Clément Ader, qui a changé le nom. Il n'appelle plus son engin un planeur, il l'appelle avion. La réalité de ces vols est cependant discutée et même a fait l'objet d'un grand débat national, mais nous y reviendrons plus tard. Avant, faisons la connaissance de Clément Ader. Clément Ader est né à Muret, dans la Haute-Garonne, le 2 avril 1841. Ses parents sont menuisiers et son père le voyait bien reprendre la menuiserie familiale. Mais c'était un élève particulièrement doué et il est envoyé à 12 ans pensionnaire à Toulouse. Il passe le bac à 15 ans. Il poursuit ses études et il obtient un diplôme d'ingénieur en 1861. En fait, Clément Ader est un monsieur trouve-tout. Il commence à travailler à la Compagnie des chemins de fer du Midi en 1875. Dès son premier emploi, il imagine une machine à poser les rails, machine qui reste à utiliser pendant des dizaines d'années. Ensuite, il se passionne pour le téléphone qui est en train de naître. Il invente le théâtrephone. Le théâtrephone, c'est un engin, c'est un appareil qui, relié à l'Opéra de Paris, permet d'écouter un opéra en restant chez soi. Bah, au-delà de tout ça, la passion de sa vie, c'est réaliser son rêve d'enfant. Il veut faire voler un appareil plus lourd que l'air. Pour cela, il réalise un moteur à vapeur ultra léger qui rendra possible le vol motorisé. Mais les travaux qu'il engage coûtent cher. Il a la chance cependant de rencontrer le banquier Isaac Perret, qui sera un ami à la fois très généreux et avisé. Un véritable mécène. Perret va financer le premier vol de Clément Ader à bord de l'appareil qu'il a baptisé Éole. Il a choisi ce nom car Éole, dans la mythologie grecque, est le maître et le régisseur du vent. Avec Éole, il va s'élever du sol pour la première fois le 9 août 1890. En fait, il rase le sol sur 50 mètres à 20 cm au-dessus de la piste. Et ce vol ne sera pas homologué comme étant le premier vol, car la hauteur au-dessus du sol n'a pas été jugée suffisante. Mais cela ne décourage pas notre ami Ader. Il se lance aussitôt sur la construction d'un second appareil qu'il va dénommer l'avion 2. En fait, l'avion 2 ne sera pas achevé, mais il servira de base à l'avion 3, avion avec lequel il ira faire ses essais au camp militaire de Satory à Versailles. Pour ses essais, on lui a établi à Satory une aire circulaire de 450 mètres de diamètre. Premier tour de cette boucle, le 12 octobre 1897. Ader racontera avoir senti à plusieurs reprises l'appareil quitter le sol, puis reprendre de nouveau contact avec le sol, puis s'élever de nouveau. Deux jours après, par un vent violent, au cours d'un nouvel essai, Clément Ader donc fait une nouvelle tentative et il y a là deux représentants du ministère de la guerre. Hélas, l'essai n'est pas concluant et en plus, Ader a perdu le contrôle directionnel de sa machine. Et devant ce qui semble un échec, le ministère de la guerre suspend ses financements. Bon, mais revenons au premier vol de Clément Ader qui, je vous l'ai dit, a été très controversé. Il est difficile de s'engager dans cette polémique. Cependant, je vais penser que ce 14 octobre 1897, Clément Adère aurait, au conditionnel, probablement effectué le premier décollage motorisé, mais non contrôlé, d'un plus lourd que l'air. Un vrai débat national s'est engagé, et cela a duré plusieurs années. Finalement, il a été admis que le décollage de l'Éole, qui quitta le sol devant témoins, authentifie le premier vol le 14 octobre 1897, le premier vol d'un plus lourd que l'air. Je précise cependant une chose, c'est le premier vol motorisé, mais non contrôlé, d'un plus lourd que l'air. Dans ses communications à l'Académie des sciences en 1898, et au congrès d'aéronautique de 1900, Adère ne parle pas d'envol. Tenu par le secret militaire, ce n'est qu'en 1906, après les premiers vols à Montesson et à Issy, et ici les Moulineaux, du Roumain Traian Vuia et de Santos Dumont à Bagatelle, qu'Adère prétendit avoir fait un vol continu de 300 mètres. Nous voyons bien que ce début de l'aviation est difficile, besogneux. Mais également, nous voyons des hommes courageux, passionnés, qui vont tout faire pour que leurs rêves deviennent réalité. Avec Clément Adère et d'autres Français que nous suivrons, lors de l'émission suivante et en ce début du XXe siècle, les progrès rapides de ces révolutionnaires moyens de transport deviendront évidents. À très bientôt.
Continuez à nous écouter sur OxyWeb et suivez-nous sur les réseaux sociaux.